Bonjour, vous êtes au carrefour de bioéthique. Bioéthique et vie humaine. Nous sommes là jusqu'à 4h30. Je vais commencer par vous faire un exposé, un enseignement. Et puis, jusqu'à à peu près vers 4h. Et puis ensuite, nous aurons une demi-heure de questions-réponses. Vous pouvez préparer vos questions et puis j'aurai plaisir à parler avec vous et échanger. Je crois que c'est un sujet qui est assez important et qui touche beaucoup d'aspects. En réalité, vous avez trois carrefours qui vont vous être proposés pendant cette session pour la bioéthique et la vie humaine. Aujourd'hui, c'est un carrefour assez généraliste, assez philosophique, puisque moi, ma formation est celle de la philosophie. Je suis donc Bernard de Castera et j'enseigne la philosophie à l'IPC, la Faculté libre de philosophie et de psychologie, qui a son stand ici à Paray-le-Monial. Et puis, donc aujourd'hui, je vais vous parler de philosophie. Mais lundi, vous aurez un deuxième carrefour qui vous parlera du début de la vie, joie et difficulté, et qui sera donné par Bruno Pialou. Et mercredi, je dis bien mercredi, mardi, vous n'avez pas de carrefour, mais mercredi, vous aurez le troisième carrefour qui s'intitule « Le bout de la vie, c'est encore la vie » et qui sera donné par Olivier-Marie de Lassus, qui est médecin. Voilà, donc, nos trois carrefours. Le premier qui est généraliste, le deuxième sur le début de la vie et le troisième sur la fin de la vie. Donc, nous sommes tous concernés par, évidemment, toutes ces étapes essentielles et qui concernent non seulement notre vie privée, mais maintenant notre vie publique, notre vie politique. Ce que nous abordons aujourd'hui est une réflexion qui est entreprise par la communauté de l'Emmanuel depuis déjà un certain temps dans le cadre du service Amour et Vérité, qui regroupe un certain nombre de choses comme la bioéthique et également tout ce qui concerne les couples. Et vous pouvez donc retrouver des informations, des compléments, des réflexions, des analyses sur le site Amour et Vérité. Et puis vous avez tous les ans un colloque qui se tient, apparaît en tout cas pour le prochain colloque, qui aura lieu le 11 novembre 2013 à Paray-le-Monial. Et puis également, vous pouvez, si vous suivez Il est vivant, vous retrouverez dans Il est vivant très souvent des articles ou voire des enquêtes, des documents plus approfondis sur les questions de bioéthique que nous suivons régulièrement. C'est vraiment quelque chose à quoi le chrétien ne peut pas rester indifférent aujourd'hui, puisque ça fait vraiment partie de notre actualité et pour plusieurs générations, c'est vraiment un lieu de réflexion, de dialogue et qui est vraiment essentiel pour notre vie et pour notre vie de chrétien. Alors aujourd'hui, notre propos, c'est de parler des modes de pensée contemporains et de la loi naturelle. Nous allons donc essayer de voir ensemble comment se situent les débats en bioéthique, comment ils se situent par rapport aux débats, aux questions contemporaines et comment ils s'enracinent dans notre culture. Notre approche, c'est une approche philosophique et c'est une approche chrétienne. Parce que l'approche chrétienne a toujours été, depuis les débuts, c'est depuis même son ancrage dans la Bible, une approche qui est aussi une approche philosophique, c'est-à-dire dans laquelle la réflexion humaine est réellement engagée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une perspective de savoir ce qu'il faut faire sans réfléchir, à qui il faut obéir sans réfléchir. Ça n'a jamais été la perspective de la foi chrétienne, ni de la foi judaïque, mais ce que le Seigneur nous demande de faire en utilisant aussi notre raison pour réfléchir. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que l'on doit penser et que l'Église dit, mais comment nous devons penser, comment nous devons réfléchir, comment nous devons poser les questions, dialoguer, aborder les problèmes, parce que notre réflexion, en fait, nous sommes convoqués à réfléchir en face de ces problèmes-là. Hein. Nous ne sommes pas dans une perspective d'obéissance aveugle à des lois qui auraient été dictées par l'Église une fois pour toutes. Nous sommes en face de problèmes qui sont, pour une part, assez nouveaux et dans lesquels notre réflexion doit toujours être engagée. C'est vraiment la perspective réelle de l'Église, qui n'est pas celle d'une obéissance aveugle, mais d'une obéissance intelligente, nourrie de réflexion. Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour que nous réfléchissions. Et spécialement en face de ces problèmes de bioéthique. Ça, c'est mon premier point. Deuxième chose que je voudrais dire en introduction, c'est que, bien sûr, ces questions de bioéthique touchent une quantité de situations qui peuvent être douloureuses, soit pour nous-mêmes, soit pour nos proches. Et donc, nous avons pu être concernés de plus ou moins près par la question du début de la vie, donc les questions d'avortement, de contraception, etc., voire de fécondation artificielle, par les questions de la fin de la vie. Et donc, c'est extrêmement délicat d'en parler. J'espère que je vais trouver les bons mots pour parler de ces choses-là. Mais je voudrais déjà, à l'avance, vous demander d'être indulgent si une expression peut, à un moment donné, être maladroite. Évidemment, notre propos n'est absolument pas de faire mal, bien sûr, surtout pas, ni de moraliser, mais essayer de comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Et essayer de réfléchir ensemble. Et donc, je vous demande pardon à l'avance si à un moment donné, vous avez l'impression que j'ai des mots qui font mal. C'est évidemment pas mon intention. Et au contraire, nous devons essayer d'aborder ces questions-là avec un certain recul et sans jugement. Sans jugement, absolument sans jugement pour les personnes. Mais en essayant cependant d'être vrai. Hein, vous connaissez le titre du livre de... vous allez peut-être me dire le nom d'ailleurs. Cessons d'être gentils, soyons vrais. Voilà, Thomas d'Ansembourg. Et donc c'est ce que nous essayons de faire ensemble. Nous essayons d'être vrais. Alors, mais nous ne cessons pas d'être gentils pour autant. Hein. Bon, mais on essaye d'être vrais. Donc d'avoir des paroles de vérité et d'aller vraiment en face des problèmes qui se posent. Voilà, alors nous sommes dans une société qui n'a pas émergé là, il y a quelques mois avec un nouveau gouvernement et de nouvelles problématiques. Il faut vous dire que les problématiques un peu plus aiguës qui se posent aujourd'hui se posent en fait, sont inscrites dans notre culture depuis déjà un certain temps, dans notre vie politique depuis déjà plusieurs dizaines d'années et dans notre culture, on peut dire, depuis plusieurs siècles. Nous sommes vraiment dans ces problèmes de vie depuis un certain temps. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul pour essayer de comprendre d'où viennent ces questions-là. Alors, d'où est-ce que je pars pour faire mon analyse ? Eh bien écoutez, moi je vais vous dire clairement que moi j'ai une position en tant que philosophe. Je pars d'une approche personnaliste, qui est l'approche propre à l'écologie humaine. Et cette approche personnaliste, c'est celle de l'Église. L'Église n'est pas sans philosophie. Les papes que nous avons depuis toujours ont cette approche qui consiste à penser qu'il y a une réalité de la nature humaine qui s'impose objectivement à nous et qui est la réalité de la personne humaine. Et que nous sommes des personnes. Alors nous allons un peu mieux comprendre ce que c'est qu'une personne humaine, parce que je vais vous en parler un peu plus longuement. Donc c'est vraiment, si vous voulez, en fait, la notion de personne humaine, je vais tout de suite vous en dire quelques mots, parce que c'est vraiment par là qu'il faut commencer, puisque c'est le cœur de notre réflexion. C'est une notion qui a été élaborée par les philosophes, c'est vrai, les philosophes qui ont réfléchi sur le donné de la révélation judéo-chrétienne. Alors, quelle est ce donné ? Si je commence déjà simplement avec Abraham, nous avons affaire à un homme qui a une révélation particulière de la part de Dieu. Révélation qu'on peut résumer dans ces quelques mots. Dieu se fait connaître à lui et lui dit « Les peuples ont beaucoup de dieux, mais moi, je veux être unique pour toi. Et si tu l'acceptes, tu seras unique pour moi. Et nous serons uniques l'un pour l'autre. Nous serons uniques l'un pour l'autre. Je serai le Dieu unique pour toi et tu seras unique pour moi parce que tu seras mon élu. » Et dans cette relation réciproque qui est absolument essentielle, où chacun est unique pour l'autre, il y a déjà une révélation de la personne humaine. Parce que, comme le dit Emmanuel Mounier, philosophe français du XXe siècle, seule une personne humaine, seule une personne peut traiter une personne comme une personne. Il n'y a qu'une personne qui puisse traiter une personne comme une personne. Et en disant, quand Dieu a dit à Abraham, tu seras unique pour moi, je te traite comme une personne, tu es unique pour moi. Et moi je serai unique pour toi, il lui révélait que Dieu est une personne, et il révélait à Abraham aussi, Abraham entendait révéler qu'il est lui aussi une personne. Et c'est ça le fond de notre révélation, c'est que chacun d'entre nous est unique, c'est ça être une personne. Et unique, pas tout seul, mais unique pour quelqu'un d'autre, unique dans une relation. C'est ça l'essentiel de la notion de personne. C'est pas être unique en soi comme ça, unique et autonome, mais c'est être unique pour quelqu'un d'autre, dans une relation qui est elle-même unique. Et la personne, c'est un être de relation dans l'unicité. Voilà, donc c'est mon point de départ, c'est mon point de vue de chrétien et de philosophe, cette philosophie de la personne, qui a été particulièrement développée par un pape dont vous avez un peu entendu parler, qui s'appelle Jean-Paul II. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit survol de la pensée contemporaine en voyant quel est le fond de notre culture occidentale et comment notre culture a conduit à la situation présente, au conflit absolument extraordinaire dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui et qui fait peur à beaucoup de gens, parce qu'effectivement, on se dit... Où allons-nous? Dans quel monde? Quel monde est-ce que nous sommes en train de construire? Qu'est-ce que nous sommes en train de détruire la nature humaine? Mais pourquoi? Alors je vais vous proposer de faire un exposé en trois parties. Dans une première partie, je vais vous parler du fond de notre culture occidentale, qui a conduit à notre déchristianisation progressive, parce que nous ne sommes plus en pays chrétien. Il est vrai que quand nous regardons le paysage français, nous voyons encore beaucoup d'églises qui donnent un paysage particulier à notre campagne. Mais en réalité, quand on gratte un petit peu au point de vue culturel, nous ne sommes plus dans une société chrétienne. Nous sommes dans une société qui est très profondément déchristianisée, et ceci depuis longtemps, et de plus en plus profondément, si bien que nous ne pouvons plus nous comporter de la même manière. Et nous devons revoir complètement notre manière d'être chrétien, notre manière de parler de Dieu, notre manière de poser les problèmes et de dialoguer en général avec les gens. Alors, nous allons approfondir cet aspect-là dans une première partie. Et puis, dans une deuxième partie, nous verrons notre société contemporaine, plus particulièrement, avec les désillusions très, très caractéristiques de notre monde actuel. Et enfin, dans une troisième partie, nous parlerons de l'approche personnaliste. Alors, je commence donc par... le fond de notre culture occidentale et comment nous sommes arrivés à cette déchristianisation progressive. Je vais vous dire là la première chose, il y aura trois points aussi. Première chose, c'est le culte de la liberté individualiste. Ce culte de la liberté individualiste qui a détruit notre approche de la réalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes uniques, non pas de manière posée comme ça, autonome et sans relation, mais nous sommes uniques pour quelqu'un. Et les autres doivent être chacun unique, les uns pour les autres. Et c'est ainsi que nous créons une société humaine. Alors qu'à partir du moment où nous recherchons notre liberté pour nous-mêmes, sans relation avec les autres, Mais évidemment, nous détruisons notre capacité relationnelle, notre capacité à être des personnes. Alors c'est vrai qu'on se croit unique, mais unique pour qui ? Unique pour nous-mêmes. Uniquement pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous détruisons la société. Et cette destruction peut aller très loin. C'était l'un des arguments pour l'avortement. Mon corps m'appartient, et si mon corps de femme m'appartient, donc l'enfant à naître est un intrus. Parce que ma liberté à moi, comme personne autonome, coupée de toute relation, c'est une liberté dans laquelle je dois pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Et donc à ce moment-là, je ne suis plus fondamentalement porté vers la vie, parce que la vie, c'est toujours une relation avec autrui, mais je suis tourné vers moi-même. Alors que, bien sûr, chacun sait que le corps féminin est un corps qui est ouvert, théoriquement, à la vie. Donc, cette révolution de notre mode de pensée, dans notre conception de la liberté, et la liberté comme une indépendance vis-à-vis de toute autorité et vis-à-vis de toute relation, pas seulement vis-à-vis de l'autorité, mais aussi vis-à-vis de toute relation, puisque la relation à un enfant, à naître, c'est même pas une relation, une autorité. Cette espèce d'individualisme total, il est vraiment dans notre société depuis très longtemps. On peut remonter déjà au XVIIIe siècle avec Jean-Jacques Rousseau et un certain nombre d'autres philosophes. Et puis, il est si profond que nous avons adopté des modes de vie qui nous font vivre dans cet individualisme. Et donc, nous ne rendons plus compte que nous vivons de cette manière-là. Je suis libre de disposer de mon corps, libre de choisir ma vie, libre de choisir mon conjoint du moment, de m'en séparer. Et à la limite même, cette liberté peut aller jusqu'au choix de mon orientation sexuelle. Parce qu'il faut que je sois libre même vis-à-vis de mon corps. Alors là, on se dit, c'est quand même curieux, parce que c'était d'abord une liberté de revendication de mon corps, je suis libre de faire ce que je veux de mon corps, et puis maintenant nous arrivons à une autre depuis déjà plusieurs décennies aux États-Unis, maintenant c'est nouveau en France, mais l'idée que je dois être libre vis-à-vis même de mon propre corps. Alors qu'est-ce qui me reste ? Remarquez que je me suis dit dernièrement, finalement ce serait presque une affirmation de l'existence de l'âme. Si je dois être libre par rapport à mon corps, c'est que j'ai une âme. Ça devient gênant. Bon, alors, donc, et je dois pouvoir accéder par tous les moyens à tout ce que je veux, puisque je suis complètement libre. Mais je pense que cette notion de liberté est ambiguë. Il y a une véritable ambiguïté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Finalement, la vraie liberté. Si quelqu'un vous dit « Est-ce que tu es libre ce soir pour aller au cinéma et que vous n'avez encore rien prévu ?» Vous pouvez dire « Oui, je suis libre. Ben d'accord, on se retrouve dans une demi-heure et on va au cinéma. » Et puis, un quart d'heure plus tard, une autre personne vous joint et vous dit « Est-ce que tu es libre ce soir ?» Vous dites « Je suis pris par le cinéma. » Et même je te propose d'aller au théâtre ailleurs ou d'aller faire un bowling. « Ah non, mais je ne suis plus libre. » Alors en fait, est-ce que je suis encore libre ou plus libre ? Mais étant donné que j'avais mon premier engagement qui était d'aller au cinéma, cet engagement je l'ai pris en toute liberté. Donc je suis libre. Je suis libre mais engagé. Donc ce que vous pouvez dire à la deuxième personne qui téléphone, vous dites je ne peux pas aller au bowling parce que je suis libre mais engagé. Ah, ça devient difficile là. Parce que la véritable liberté en réalité, ce n'est pas une liberté d'indépendance, c'est une liberté d'engagement. Parce que si vous voulez vraiment rester libre et indépendant, vous n'allez nulle part. Vous dites, oui, je suis encore libre. Finalement, je ne vais plus au cinéma, je vais au bowling. Puis encore, il y a une troisième personne qui vient téléphoner. Vous dites, non, je ne vais plus au bowling. Alors, le mieux, c'est de rester chez soi pour être complètement libre de tout faire et de ne rien faire, finalement. Alors, si c'est ça la liberté, il faut rester chez soi et ne rien faire. C'est la liberté d'indétermination, où là, effectivement, on peut tout faire et rien faire. Remarquez que le fond de la théorie du genre, c'est un petit peu cette idée chez Edith Butler, Son idée, c'est qu'au fond, nous devrions avoir d'une certaine manière aucune sexualité déterminée, mais une indétermination sexuelle absolue, c'est-à-dire ni homme, ni femme, ni trans, ni machin, ni ceci, ni cela, mais une possibilité de pouvoir à chaque fois changer, inventer autre chose, et à ce moment-là, on n'est rien. Et elle dit bien, d'ailleurs, effectivement, il faut détruire la fameuse idée d'identité. D'identité sexuelle, puis d'identité humaine. Oui. Donc, c'est une. À l'origine, vous avez une notion de liberté qui est ambiguë, qui est fausse. Parce que la véritable liberté, c'est effectivement de pouvoir s'engager. Alors, j'ai pris un exemple simple avec s'engager pour le cinéma, parce que c'est facile à comprendre. Mais effectivement, quand on s'engage, qu'est-ce qu'on fait? On brûle les autres possibilités. C'est-à-dire, si je m'engage à aller au cinéma, je brûle les autres possibilités. Donc je fais mon deuil des autres possibilités. Et si je les abandonne vraiment, alors je vais vraiment profiter de mon cinéma. Et c'est le cas à chaque fois qu'on fait un engagement profond de notre liberté, ça suppose un deuil profond de ce que nous ne faisons pas. Et ce à quoi nous renonçons. Et plus notre oui est profond, plus notre non est profond. Vous voyez, la véritable liberté suppose le deuil de ce que nous ne choisissons pas de faire. Et c'est vrai que c'est un peu particulier de parler de la liberté comme d'un deuil, mais il faut quand même reconnaître où est la vérité. Hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre aussi. C'est ça notre liberté concrète, réelle, parce que nous sommes des hommes concrets. Nous ne sommes pas appelés à une liberté absolue, nous sommes appelés à une liberté concrète qui suppose des choix, donc des deuils, des engagements, donc des renoncements. Voilà donc pour nous sortir de cette ambiguïté de la liberté. Ça, c'était mon premier point. Alors, le deuxième point de notre culture occidentale déchristianisée, après le libertarisme individualiste, c'est une vision utilitariste de l'homme. Une vision utilitariste. C'est-à-dire que, au fond, on se dit je peux faire ce que je veux, je peux choisir les moyens que je veux à partir du moment où j'ai choisi une fin. Donc la fin justifie tous les moyens. Alors si je veux obtenir quelque chose, et comme par exemple la santé de quelqu'un, et ben je peux prendre tous les moyens, éventuellement utiliser un embryon surnuméraire pour pouvoir sauver la santé de quelqu'un d'autre. Et c'est donc le principe même de l'utilitarisme. C'est-à-dire que je me donne une fin qui est bonne. C'est une bonne fin de vouloir permettre la santé et de sauver certaines personnes de maladies qu'on ne sait pas guérir. Et on se dit, je vais donc prendre des éléments que je vais pouvoir trouver sur des cellules souches que je vais pouvoir trouver éventuellement dans des embryons. Alors évidemment, c'est une vision complètement utilitariste. À la limite, c'est une réutilisation de l'homme pour servir à l'homme. Les hommes peuvent servir à d'autres hommes. Mais évidemment, à chaque fois, vous avez des hommes qui sont sacrifiés. Ou des embryons qui sont sacrifiés. La question, après, c'est qu'est-ce que c'est ces embryons ? On en parlera. Et on est quelquefois tellement obnubilé par cette idée-là et par la volonté de défendre cette idée-là qu'on ne voit plus que ces fameuses cellules souches, on peut les trouver ailleurs que dans l'embryon. Parce qu'on peut les trouver également dans le cordon ombilical et puis maintenant encore ailleurs. Donc on finit par freiner la recherche scientifique qui nous permettrait de trouver des cellules souches ailleurs en se disant mais on a des embryons là, qui peuvent nous servir. C'est une vision utilitariste de l'être humain. Et cette vision utilitariste, c'est celle qui a justifié, entre guillemets, à un certain moment, l'esclavage. On se disait, mais finalement, ces hommes, vous savez, bon, d'accord, nous les utilisons comme esclaves, mais ce sont pas... ce ne sont pas des hommes qui ont la même dignité que les autres, soit parce que ce sont des hommes qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont... Enfin, ils ne sont pas comme nous, donc on peut les utiliser. Ouais, à chaque fois qu'on a fait de l'esclavage, on a trouvé des arguments. Hein. Et aujourd'hui, on trouve des arguments pour utiliser des embryons, en disant qu'ils ne sont peut-être pas complètement des hommes. Hein. On peut toujours trouver des arguments de ce genre. C'est une vision utilitariste. Je ne pense pas qu'elle soit complètement justifiée. Il y a une ambiguïté dans ce cas-là sur l'utilisation, la justification des moyens pour une fin. C'est vrai que la fin justifie les moyens, mais pas n'importe quel moyen. Et toute l'ambiguïté est là. Les fins justifient les bons moyens. On ne peut pas, avec des moyens mauvais, obtenir une fin qui soit bonne. Pour obtenir une fin qui est bonne moralement, il faut des moyens qui soient bons moralement. Ça, c'est indispensable. Il faut que les moyens soient adaptés aux fins. Il faut que nos moyens soient adaptés aux fins. Donc nous partons d'une fin qui est bonne, mais réfléchissons à ce qu'est cette fin. Et à partir de cette fin, nous reprenons des moyens qui doivent être bons. Je pense que nous avons une réflexion à mener aussi sur ce que c'est que la santé humaine, finalement. Qu'est-ce que c'est que la santé? Et aussi sur le sens même de la souffrance humaine. Il est sûr que nous sommes dans une société qui cherche à éradiquer la souffrance et à promouvoir le plaisir. Le plaisir par tous les moyens, sous prétexte que le plaisir serait bon. D'abord, tout plaisir n'est pas bon. Et puis, la recherche du plaisir à tout prix n'est pas nécessairement une excellente chose. Il ne faudrait pas confondre le plaisir et le bonheur. Ce n'est pas exactement du même ordre. Et puis, d'autre part, le bonheur n'est pas toujours dans l'immédiat. Le bonheur, quelquefois, ce n'est pas immédiat. On passe par des étapes qui ne sont pas particulièrement heureuses. Mais au bout du terme, quand on cherche un peu moins le bonheur, finalement, on le retrouve. Quelquefois, on trouve le bonheur en le cherchant un peu moins. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui recherchent le plaisir sans trouver le bonheur. Parce que le plaisir et le bonheur ne sont pas du même ordre. On peut être très malheureux et avoir des moments de plaisir. Parce que ce n'est pas du même ordre, le bonheur et le plaisir. Hein ? Le plaisir est quelque chose qui est d'ordre sensible, immédiat, passager. En soi, c'est positif, le plaisir. Heureusement que la nature nous a donné du plaisir. Si nous n'avions pas de plaisir à boire, par exemple, on se laisserait dessécher hein, par un temps pareil. Et ce ne serait pas bon du tout pour notre santé. Heureusement que boire nous procure un certain plaisir. Heureusement que nous avons du plaisir à nous arroser. Heureusement que nous avons du plaisir avec l'eau. C'est un plaisir très sain, mais vous voyez que le plaisir n'est pas en soi quelque chose de malsain. Donc, il est bon que nous ayons effectivement un certain nombre de plaisirs. Mais en même temps, le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Vous pouvez être ici et pour des raisons profondes, avoir des raisons profondes et sérieuses d'être finalement assez malheureux, et puis avoir un certain plaisir à vous arroser. Vous avez le plaisir de vous arroser, mais au fond de vous-même, vous n'avez pas encore le bonheur parce que vous avez perdu un être cher ou vous avez des raisons qui ne sont pas du même ordre. Ce n'est pas du même ordre, le bonheur et le plaisir. Ce sont deux ordres différents. Donc la recherche du plaisir, pour le plaisir et pour lui-même, c'est pas du même ordre que la recherche du bonheur. Et le bonheur, dans le fond, il nous provient du fait que, enfin, nous sommes uniques pour quelqu'un qui est unique pour nous, et nous trouvons, par ces relations d'unicité, petit à petit, nous rentrons dans le royaume des personnes, qui est le royaume de Dieu, le royaume des relations de personnes. Ça, le bonheur. Voilà donc pour mon deuxième point qui était celui de l'utilitarisme, et j'arrive maintenant à mon troisième point qui est celui du naturalisme, c'est l'approche écologiste. Vous savez que l'approche écologiste n'est pas quelque chose qui est né comme ça au XXe siècle. En réalité, le premier écologiste vraiment sérieux et assez génial d'ailleurs, c'est un certain Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Et c'est très intéressant de lire Jean-Jacques Rousseau puis de voir comment il concevait les choses. Il avait un véritable amour de la nature, presque une dévotion pour la nature. Quelque chose d'assez beau, parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle? Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la science et de la raison. Et le siècle du culte du progrès, où les hommes se disaient, les hommes dits des Lumières, hein, qui sont autoproclamés les Lumières, ils ont dit, avec les Lumières de la raison et de la science, nous allons faire un monde heureux, formidable, rationnel, rationaliste. Et Jean-Jacques Rousseau s'est opposé à eux de manière frontale, en disant, non, tout cela est faux, il faut revenir à la nature, il faut même refuser le progrès et vivre... il avait quelques siècles d'avance, il voulait presque vivre comme des beatniks en pleine nature, comme ça, deux, trois fois rien, un peu d'eau fraîche. Et, bon, un peu le rêve écologiste. Et puis, peu à peu, cette réflexion écologiste, évidemment, elle a mûri dans notre société. Elle a été reprise par Aldo Leopold, qui est un Américain, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, qui s'intitule « L'éthique de la Terre », qui est écrit en 1949, et qui lui aussi est un très grand poète, un poète de la nature. Mais Aldo Leopold est aussi assez excessif. Il a créé ce qu'on appelle la « deep ecology », c'est-à-dire l'écologie profonde. Et sa vision des choses, c'est que la nature est quelque chose de si beau et si extraordinaire qu'elle est vraiment belle que quand elle est sauvage. Et il rêve que nous retrouvions la nature sauvage. Alors, quand on lit ces livres, c'est très beau. Hein. Vous partez dans des régions qui n'existent presque plus, mais où tout est encore sauvage. C'est formidable, c'est merveilleux. Et il dit, il faudrait que l'homme soit tellement discret que toute la sauvagerie puisse continuer d'exister. Le malheur, c'est que nous sommes déjà plus de 7 milliards d'hommes et que c'est fini pour la nature sauvage. Il y a quelques enclaves réduites par-ci par-là, mais en réalité, alors les partisans de la deep ecology voudraient qu'on réduise le nombre d'êtres humains à quelque chose comme 500 000 pour essayer de retrouver un petit peu la beauté sauvage de la nature. Oui, mais et l'homme là-dedans. Alors, ce qui est préoccupant, c'est que la notion même de l'humanité est perdue. Finalement, l'être humain lui-même a perdu sa dignité. Parce que c'est vrai que la nature a été méprisée, mais il ne faudrait pas que par une espèce de retour de bâton, on se mette à mépriser l'homme pour adorer une nature qui serait agressive à l'égard de l'homme. Il nous faut équilibrer les choses. C'est vrai que c'est un véritable défi dans notre société. C'est un véritable défi. Comment équilibrer notre respect de l'homme et notre respect de la nature? C'est vraiment une réflexion difficile. Parce que nous avons développé une technologie formidable, une science et une technologie extraordinaire qui nous permet d'aller très loin dans l'exploitation de la nature et donc aussi dans les services rendus à l'homme pour sa santé. Pensez à tout ce qu'on peut faire actuellement avec les rayons laser pour sur l'œil humain. C'est fantastique. C'est ce qu'on peut. On peut travailler sur la rétine de l'œil humain avec des rayons laser. On peut faire une quantité de choses. De temps en temps, il faut se plonger un petit peu dans une revue, dans des documents ou des choses comme ça qu'on présente quelquefois à la télévision pour se rendre compte des merveilles de la technologie humaine et de ce qu'elle apporte. On va dire, on ne va pas quand même renoncer à cette technologie. C'est quand même une merveille. C'est vrai, objectivement, c'est vrai. Et puis, objectivement, il est vrai aussi que nous risquons de détruire la nature. Donc il faut trouver le moyen d'équilibrer les deux. Donc nous sommes dans ce débat qui est le nôtre, qui est celui de notre société, que nous devons prendre de front, que Jean-Paul II nous a appelé à prendre de front parce que c'était vraiment nouveau. Les papes précédents n'ont pas tellement parlé parce que c'était pas encore le lieu. Puis à partir de Jean-Paul II, ça commence à être clair. Et puis donc ça a été repris par Benoît XVI, et puis repris par notre pape François, bien sûr. Et puis on voit bien que de toute façon, même si les papes n'en parlaient pas, il faudrait bien qu'on en parle parce que c'est vraiment une question importante aujourd'hui. La place de l'homme dans la nature et la place de la nature dans l'homme, puisque nous sommes un être de la nature. La nature est en nous. Notre corps, c'est déjà de la nature. Donc il ne faudrait pas que nous acceptions cette déchristianisation au nom de la nature. Les trois principes de déchristianisation reposent sur des ambiguïtés. L'ambiguïté de la nature, l'ambiguïté de la justification des moyens pour atteindre une fin, et l'ambiguïté d'une certaine approche de la liberté. Nous devons, avec fermeté, dire que nous sommes vraiment les défenseurs de la liberté, la vraie liberté, les défenseurs des vrais moyens pour atteindre les vraies fins, et les défenseurs de la nature et de l'homme dans la nature et de la nature de l'homme. La véritable écologie, c'est de ne renoncer à rien, ni à l'homme, ni à la nature. Ouais. Et là, nous avons, si nous entrons dans une démarche comme celle-là, nous sommes dans un processus de réflexion critique réelle sur notre société, mais en même temps dans un processus de dialogue avec notre société. Et dans un processus aussi de peut-être de recristianisation, mais en même temps, sans parler trop vite de recristianisation, aussi de critique de notre réflexion, notre réflexion chrétienne qui n'a pas toujours été non plus toujours au top de ce qu'elle aurait dû être, mais ça c'est normal, nous sommes que des êtres humains. Et ce que nous proposons, c'est encore très modeste. Nous, il ne faut surtout pas penser que nous pensons mieux que les générations précédentes. On essaye de penser pas trop mal, s'en sortir, mais bien sûr, restons modestes. Voilà, alors maintenant, dans notre société contemporaine, quelles sont les tendances précises, donc c'est la deuxième partie de mon propos, les tendances précises de notre société tout à fait contemporaine. La première, et la plus importante, qui est en cause presque dans toutes nos réflexions, c'est le relativisme. Le relativisme, ça consiste à dire, finalement, vous savez, à chacun sa vérité. Comme la fameuse pièce de théâtre de Pirandello, l'auteur italien. À chacun sa vérité. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun voit le bonheur à sa porte. C'est pas complètement faux, d'ailleurs, mais c'est quand même, là encore, un peu ambigu. C'est vrai que de là où vous êtes, vous voyez la pièce d'une certaine manière, de là où je la vois d'une autre manière. Bon, évidemment, donc, nous avons chacun notre point de vue, mais n'empêche que la pièce, elle existe réellement. Donc, bien sûr, nous avons des approches différentes des choses aussi, selon notre culture, selon notre expérience. Donc, nous avons des approches différentes, mais en même temps, il y a bien une réalité qui est là et qui s'impose à nous. Donc, dire à chacun sa vérité et s'en tenir là, c'est souvent, finalement, un mensonge un peu facile. C'est une manière d'éviter le véritable débat. Parce que le véritable débat, ça consiste à dire, maintenant, dialoguons, échangeons nos points de vue pour essayer de nous approcher d'une vérité plus grande, plus réelle, plus complète. Essayons d'approcher la vérité. On n'aura peut-être pas toute la vérité, mais on peut l'approcher. Au lieu de rester enfermés chacun dans notre point de vue. Parce que si on dit à chacun ses vérités, et on arrête le dialogue aussi. À ce moment-là, il n'y a plus de dialogue. Ça, tu penses ça, je pense ça, bon, on arrête là, ben, on n'a plus besoin de se parler. Mais finalement, il y a une espèce de relativisme qui est extrêmement méprisant à l'égard de l'autre. Parce que si on relativise complètement le point de vue de chacun, on n'a plus besoin de se parler, et c'est le mépris total des opinions de l'autre. C'est quand même dommage. Alors que nous devons reconnaître que nous avons des points de vue différents, mais sans mépriser le point de vue de l'autre, essayer en dialoguant de marier nos points de vue, en tout cas de danser ensemble, pour même si on ne se marie pas, pour déjà avancer vers une certaine harmonie. Et puis accepter que le point de vue de l'autre soit un peu éclairant pour nous, que le nôtre puisse aussi éclairer le point de vue. Vous voyez, petit à petit, on arrive à construire comme ça. Mais on n'est pas dans le mépris. Remarquez qu'il y a une raison pour laquelle ce relativisme est si important dans notre société. C'est que nous avons connu des idéologies doctrinaires extrêmement terribles pour notre société. Nous avons connu le nazisme et le communisme. Et alors, soit on était communiste, soit on était nazi, et on était nazi pour lutter contre le communisme, communiste pour lutter contre les nazis. Finalement, c'était un peu binaire quand même. C'est-à-dire, ou t'es l'un ou t'es l'autre. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il ne faut pas se laisser prendre dans cette binarité. Je pense que, évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe. Et il y a eu des idéologies terribles et mortifères au XXe siècle. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons accepter un relativisme absolu. Oui. Mais je pense que maintenant, il y a quand même un certain temps que nous avons quitté le monde du socialisme nazi. Il y a un certain temps que nous avons aussi quitté le monde du socialisme communiste. Donc, remarquez qu'on n'a pas fini avec d'autres nouvelles idéologies. Mais je pense qu'il est temps maintenant de sortir de ce relativisme et puis de commencer à approcher d'une véritable recherche, d'une véritable quête de la vérité. Alors, la deuxième tendance contemporaine, c'est, en lien d'ailleurs avec ce relativisme, c'est une espèce d'approche consensuelle. Et donc, on va chercher un consensus, puisqu'on ne peut pas arriver à être d'accord sur tout et sur les questions essentielles. Et bien, on va tout simplement essayer de trouver un consensus. Et c'est pas mal, le consensus. C'est vrai que c'est pas non plus une mauvaise chose. Trouver des consensus, c'est bien. En soi, pour vivre ensemble, il faut accepter... De faire des consensus. Mais en même temps, il ne faut pas, sans doute pas, se limiter à ce genre de choses, parce qu'on arriverait à une espèce de consensus mou qui favoriserait certains lobbies. Et je crois que nous sommes en plein dedans aujourd'hui, à notre époque là, particulièrement en France, où sous prétexte d'arriver à un consensus, finalement, on favorise certains lobbies plutôt que d'autres. Et donc, nous sommes, avec l'argument du consensus, en train de favoriser des minorités. Et là, on se fait complètement avoir. Et là, je pense que nous ne sommes plus dans le consensus. Nous sommes dans la manipulation. Ce n'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est grave. Et cette manipulation, elle est favorisée par la troisième tendance de notre société, qui est la tendance médiatique... aux réactions émotionnelles. Nous sommes dans une société essentiellement gérée encore par la télévision, par le télévisuel et l'émotionnel. Et même les journaux papier se sont mis à l'émotionnel. Nous vivons dans l'émotionnel continuel. Et l'émotion, qu'est-ce que c'est ? Ben finalement, c'est la grande manipulation de notre imagination, notre sensibilité. Et donc, quand on veut faire passer une idée, ben évidemment... On va utiliser des situations très émotives. Évidemment, s'il s'agit de la fin de la vie, on va présenter à la télévision et puis un peu partout dans tous les médias la situation extrêmement douloureuse d'une personne qui souffre terriblement. Et quand on la voit, quand on voit concrètement une personne qui souffre comme ça, on se dit « mais vite, il faut arrêter ça, c'est plus possible ». Et évidemment... Vous avez derrière tout un discours orienté dans un certain sens et toujours dans un seul, et qui finalement va être un discours qui va essayer de favoriser les solutions finales, quoi. Alors qu'on pourrait avoir la même chose en favorisant une autre approche, qui serait une approche solidaire. Parce que ce qui est très curieux, c'est que dans cette société de l'émotion, où on se dit, par solidarité pour cette personne qui souffre, on va mettre fin à sa vie le plus rapidement possible. On n'a pas une véritable approche solidaire. Parce que la véritable approche solidaire, ce serait de mettre en place, dans toute la mesure du possible, tous les moyens que nous avons d'atténuer sa douleur, sur le plan médical, de favoriser les relations interpersonnel pour l'aider dans sa fin de vie moralement, et par toutes ces relations là petit à petit l'aider à assumer cette fin de vie dans la véritable dignité, qui est la dignité des personnes qui sont en relation les unes avec les autres, et où par des moyens médicaux on atténue la douleur, par des moyens d'amitié, de psychologie, des moyens de familiaux, et s'il n'y a plus de famille, par toute la solidarité personnelle, on peut aider les gens. Et c'est là que nous arrivons à l'approche personnaliste. Donc ça, c'est mon troisième point. Qu'est-ce que c'est que cette approche personnaliste ? Donc je vous ai dit, la personne humaine, c'est le fait d'être quelqu'un, et d'être quelqu'un d'unique pour quelqu'un d'autre, qui est unique aussi. C'est pas être unique pour son chien. C'est vrai qu'un chien, ça peut être extrêmement sympathique. Qu'est-ce qui est sympa dans un chien ? C'est qu'un chien, on a l'impression qu'on est unique pour lui. Parce que déjà, il vous reconnaît. Quelquefois même, il reconnaît votre voiture. Là, vous vous dites, c'est extraordinaire. Donc, on se dit, je suis unique pour mon chien. On se sent reconnu. Oui, mais honnêtement, bon, à tête reposée, c'est quand même pas un être humain. C'est vrai que c'est quelquefois plus sympathique qu'un être humain. Bon, on souhaiterait que les êtres humains... Bon, d'ailleurs, on a bien l'expression, je veux pas être traité comme un chien. Bon. Donc, effectivement, ce que nous attendons des êtres humains, c'est cette relation unique qui fait que, effectivement, et qui nous l'exprime. C'est vrai que le chien, il est sympa parce qu'il l'exprime. Alors qu'il y a des êtres humains qui peut-être nous aiment beaucoup, mais qui ne savent pas l'exprimer comme lui. Voilà. Donc, une société humaine, c'est une société de personnes. C'est une communauté de personnes. Et nous avons un bien commun. Vous voyez, je fais une différence entre la personne et l'individu. Ce sont deux mots différents. Vous mettez un certain nombre de gens dans une rame de métro ou dans un car, et ça ne vous fait pas une société. Ça vous fait un certain nombre d'individus, et on peut dire il y en a 20, il y en a 30, il y en a 60, il y en a 100. Mais d'accord, mais ça ne fait pas... On l'avait dit, hein. Ça ne fait pas une société. Une société, ce n'est pas la somme des individus. Ce qui fait une société, c'est l'ensemble des relations entre les personnes. Et quand vous avez un certain nombre d'individus qui sont dans un TGV, dans un car, etc., vous n'avez pas de relations entre eux. Mais ce qui fait une société, c'est qu'il y a des relations entre les hommes. Donc, tant qu'on ne fait qu'entasser des êtres humains, il n'y a pas de société. Il y a une société que quand naissent des relations. Hein? C'est ça, la société. Ce sont des relations. Et cette relation, la caractéristique des relations entre les êtres humains par rapport aux fourmis, aux termites et aux autres animaux, c'est que ce sont des relations interpersonnelles. Ce n'est pas simplement de l'organisation, comme dans une armée ou des choses comme ça. Non, c'est une relation interpersonnelle où nous sommes uniques les uns pour les autres. Et c'est ce qui fait que nous créons ce qu'on va appeler un bien commun. Et un bien commun, c'est d'une nature essentiellement spirituelle. Je ne veux pas dire que ça plane, mais c'est d'une nature spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à une société humaine. Oui. On ne peut pas parler de personne humaine sans création de bien commun. Parce qu'il y a des personnes humaines, la personne humaine, elle est révélée par la présence d'autres personnes humaines. Donc nous sommes à plusieurs. Plusieurs personnes humaines créent ensemble une société et elles créent ensemble un bien qui leur est commun. Vous voyez, si par exemple on fait un banquet, alors il y a deux possibilités pour le banquet. Soit tout vous est offert, on arrive tous, et puis chacun se baffre comme il peut, on se parle plus ou moins, mais bon, on a bien mangé, on repart le ventre plein, pas nécessairement heureux. Soit rien ne vous est offert, mais le banquet sera constitué de ce que chacun va apporter et de ce que chacun va donner. Et qui est-ce qui va le plus en profiter ? Ben ceux qui apportent le plus. Plus on apporte de soi-même, plus on se donne, plus on reçoit. Et ceux qui seront le plus donnés pour ce banquet sont ceux qui vont finalement recevoir le plus. C'est un peu... Bon, c'est une image, hein. Mais ça vous donne une idée de ce que c'est que le bien commun. Le bien commun, c'est nous le recevons à la mesure où nous nous donnons. Donc plus nous nous donnons, plus nous donnons notre liberté. Finalement, la liberté, c'est ce qui est fait pour être donné. Plus nous donnons notre liberté, plus nous recevons de bien commun. Et c'est cela l'approche personnaliste. Alors, je pense à un exemple concret, pour revenir maintenant à ces questions de bioéthique. Un exemple tout à fait concret. Donc, je vais terminer là-dessus d'ailleurs, qui s'est passé dans une famille de nos amis. Donc, la maman attendait son 7e enfant. Et puis, une de ses grandes filles, une adolescente de 15 ans, est devenue enceinte par le fait d'un de ses copains de sa classe de 3e. Donc, vous voyez, les adolescents pas encore construits, même pas du tout construits, et qui, à la suite d'une petite soirée, bon, il se trouve qu'il y a une fille qui est enceinte. Et elle est parmi les aînés de cette famille qui attend le septième. Alors, si nous sommes dans la perspective de la liberté individualiste, on dit son corps lui appartient, ce qui est arrivé c'est complètement idiot, il faut qu'elle se sépare de cette vie à naître, on ne va pas dire de cet enfant, on dit simplement vie à naître, c'est plus abstrait, c'est mieux. Hein. Et si au contraire nous sommes dans une société qui est solidaire, la fille elle n'est pas toute seule, elle est dans une famille, et si toute la famille est solidaire autour d'elle, et si les autres familles qui sont autour les encouragent en disant « mais il n'y a pas de honte à garder cet enfant », on est solidaire avec vous, nous sommes vos amis. Et bien l'enfant, on va le garder. Et c'est ce qui s'est produit, effectivement. Donc, la mère qui attendait son septième enfant a dit à sa fille, on va attendre ensemble chacun notre enfant. Et puis, bien sûr, tu ne te sens pas mûr pour éduquer cet enfant, je comprends très bien. Mais tu vas continuer à grandir, et puis je t'aiderai, on va l'éduquer ensemble, cet enfant. Et puis, y a la honte. Mais non, on a une quantité d'amis qui sont avec nous. Et n'aie pas peur. Et on a été un certain nombre de familles, amis, pour l'aider à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte, etc. Et puis, la question, vous allez vous marier ou pas marier, vous avez tout le temps pour ça, vous verrez bien. Bien sûr, vous avez fait ce qu'on appelle, entre guillemets, une bêtise. Voilà. Mais vous verrez bien plus tard ce que vous allez faire, si vous mariez ou vous mariez pas. Vous pressez pas. Mais l'enfant, il est là. Et l'enfant est né, effectivement, etc. Et puis, on a vu dans les années qui ont suivi la jeune fille, la jeune mère, eh ben, petit à petit, elle s'est construite. Et l'enfant, ben, l'enfant, elle était toute heureuse de le voir. Et elle n'a pas été blessée par le fait d'avoir subi un avortement. Et elle a construit sa vie. Et toute la famille a été construite, finalement, par cet accueil de la vie. Et là, vous avez une véritable notion de solidarité. C'est très curieux que nous sommes dans une société qui est bâtie sur les trois, la triple devise, liberté, égalité, fraternité. Mais alors, quand on parle de liberté, c'est très ambigu, c'est une liberté individualiste. L'égalité, c'est encore très ambigu, c'est généralement pour justifier un peu ce qu'on veut. Et la fraternité, on l'oublie complètement. Tandis que dans le cas présent, là, finalement, c'est la fraternité qui a permis de sauver, d'une part, la vie de l'enfant à naître, mais d'autre part, la vie même de cette petite jeune fille de 15 ans. Hein, qui finalement dans sa vie s'est dit on peut construire à partir d'une bêtise, on peut se reconstruire à partir d'une entre guillemets bêtise, bon, qui aurait pu arriver à d'autres, hein, parce que ça voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine, nous sommes tous comme ça. Et donc voilà, donc c'est cette notion de société de personnes, de bien commun des personnes, qui est dynamique et qui est constructive, que nous cherchons à élaborer. Vous voyez, donc, avec des références qui sont plutôt des références philosophiques, complètement reprises, effectivement, par l'Église catholique, mais qui ne sont pas spécifiquement religieuses.